enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Déjà, quatrième semaine de la série sur le pouvoir de tous ensemble. Donc, j'ai vraiment hâte de partager le message aujourd'hui, parce qu'on a vu tellement de belles choses. En fait, notre texte clé, c'est dans le psaume 133, et on va regarder cela ensemble encore ce matin. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Cantique de degré de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer, comment? Ensemble. Donc, on voit que c'est le contraire vrai aussi. Oh, que c'est pas doux, c'est difficile, que c'est désagréable pour les frères de ne pas demeurer ensemble. Mais là, on continue. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là, tout le monde dit c'est là. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et qu'est-ce qu'on a vu à travers les quatre semaines, ou les trois autres semaines plus aujourd'hui, c'est qu'il y a une place où Dieu envoie toujours ses bénédictions. Et je ne sais pas ce qui vous concerne, mais ça m'étonne d'avoir ses bénédictions, et vous? Parce que quand Dieu nous bénit, il nous bénit au bout, n'est-ce pas? Et il fait des belles choses pour ses enfants. Il veut que nous soyons bénis, il veut que nous soyons comblés. Mais si on va être comblés, il faut être à la bonne place. Parce que Dieu répand ses bénédictions à une place. Ce n'est pas une place géographique. C'est plutôt une place dans l'esprit. C'est une atmosphère dans laquelle il travaille, il agit. Et là où Dieu envoie ses bénédictions, c'est là où les frères demeurent ensemble. On a vu à travers les semaines, c'est que ce mot « ensemble » qui est utilisé dans le Nouveau Testament, pas juste ici dans l'Ancien, mais dans le grec, dans le Nouveau Testament, on voit que quand la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble, ça veut dire qu'ils étaient ensemble, ensemble. C'est-à-dire avec passion et à l'unisson. Tout le monde dit avec passion et à l'unisson. Comme on a dit, hein, un parent qui offre à son enfant un vélo pour Noël, c'est pas trop le fun pour l'enfant d'arriver le 25 décembre et voir une boîte pleine de 1000 morceaux qui sont pas vraiment assemblés. Toutes les boîtes sont là, mais ils sont pas ensemble. Donc il peut pas faire grand chose avec le vélo, vous êtes d'accord? Mais beaucoup des couples sont comme ça, hein? Il y a deux personnes, un homme et une femme qui vivent sous le même toit, mais ils sont pas ensemble. Il y a beaucoup de compagnies qui fonctionnent comme ça. Dans l'usine, à la shop, il y a peut-être 100 employés, mais ils sont pas vraiment ensemble. Ils travaillent pas avec passion, ils travaillent pas à l'unisson. Dans les églises, c'est la même chose. On peut avoir une église avec une centaine, 200, 300, jusqu'à 1000 personnes dans la même salle, dans la même pièce, mais ils sont pas forcément assemblés. Ils sont pas ensemble. Et qu'est-ce qu'on veut, c'est d'apprendre à faire les choses avec passion et à l'unisson. On va le dire encore, avec passion et à l'unisson. Alléluia! Parce que c'est là où Dieu envoie ses bénédictions. C'est là, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient voir plus de miracles? Plus des personnes guéries dans leur corps, plus de mariages restaurés, plus de belles choses. C'est moi aussi. Et si je vais voir ces choses, il faut que nous soyons ensemble. Et on a parlé de cela depuis trois semaines. Et aujourd'hui, peut-être c'est la dernière semaine qu'on va faire sur ce sujet, mais on veut parler de quelque chose de bien important. Comment vaincre les pires ennemis de tous ensemble? Dieu veut qu'on soit ensemble. Pourquoi? Parce qu'il veut nous bénir. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne veut pas qu'on soit ensemble, parce qu'il ne veut pas qu'on soit béni. En fait, il veut nous détruire. Savez-vous qu'il y a quelqu'un qui veut détruire votre mariage? Il ne veut pas que vous restiez ensemble. Il y a quelqu'un qui veut détruire cette église. Il ne veut pas qu'on soit dans l'unité, à l'unisson et avec passion. Il y a quelqu'un, on a un ennemi, un adversaire qui rôde, cherchant comme vraiment un lion, rugissant, quelqu'un à dévorer. Et moi, pour un, je ne veux pas me laisser dévorer par l'ennemi. Et vous? Je ne veux pas laisser mon mariage être dévoré. Je ne veux pas laisser cette église être dévorée. Moi, je veux aller jusqu'au bout pour le Seigneur avec passion et à l'unisson. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont une passion de voir le plan de Dieu accompli? Alléluia! Donc, quels sont les pires ennemis de l'unité, si vous voulez, ou de tous ensemble? Regardons les prochaines diapos, les pires ennemis de tous ensemble, si on peut voir les prochaines. L'ennemi de avec passion, c'est quoi? C'est l'apathie. Laisse-moi vous dire que si on ne fait pas attention, l'apathie va détruire notre passion pour Dieu. Quelqu'un ici dit, mais je m'en fiche. Oh, c'était un joke. Est-ce que vous êtes là? OK, on recommence. Est-ce qu'on va rembobiner ou quoi? Là? On recule. On parle de l'apathie et je dis, il y a des gens qui disent, je m'en fiche. Ça m'intéresse pas. Combien de vous ici, vous voulez vaincre l'ennemi de l'apathie dans la vie? Savez-vous que l'apathie, c'est quelque chose de très sérieux? Regardons qu'est-ce que la Bible dit ici. Prochain verset. Si on peut. Mais on va le lire, c'est dans vos notes. Ils vont l'avoir sur l'écran tantôt. Romains 12, 11 dit, « Ne devenez pas nonchalants dans votre travail. Faites-le avec quoi? Énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. » Ne devenez pas nonchalant. Réveillez-vous! Regarde quelqu'un et dit, réveille-toi! Hey, c'est sérieux cette affaire! Dieu veut faire quelque chose de grand dans votre vie. Mais si vous avez une attitude nonchalante, comme on veut, que sera, laisse-moi vous dire, moi je vais être juste dans votre face ce matin. Laisse-moi vous dire une chose. Si vous n'êtes pas en vraiment feu pour Dieu, si vous n'avez pas un zèle pour Dieu, une passion pour Dieu, les meilleures bénédictions de Dieu vont passer à côté. Est-ce que vous êtes là? Il faut qu'on se réveille, hein? Claudine, il faut qu'on soit en feu, n'est-ce pas? Dieu veut faire quelque chose de grand.
Ben oui!
Oui! Oui! Mais c'est important. Dieu a un plan pour ta vie. Il ne faut pas être nonchalant. Dieu veut faire quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment important. Avec toi et en toi, il ne faut pas être nonchalant. Je ne pense pas que tu es nonchalant, hein? Je vise personne. C'est vraiment tiré au sort, là. Hein? Mais tu sais quoi, Michael?
Oui.
Dieu veut faire quelque chose de grand dans ta vie et dans ta famille. Mais il faut avoir le feu.
Oui, Seigneur.
Il faut brûler avec désir. Et Éric, tu sais quoi? Dieu veut faire des grandes choses. Qu'est-ce que tu penses, Nelson? Il faut être en feu. Qu'est-ce que je fais là? Je ne sais pas, mais c'est le fun, hein? Ne devenez pas nonchalant. Si le Saint-Esprit a inspiré ce verset, pourquoi? C'est parce que nous avons une tendance à devenir nonchalant. Ça, c'est comme le norme. Laissez à nous-mêmes, le feu s'éteint. Laissez à nous-mêmes, on perd d'énergie. Laissez à nous-mêmes, le pneu dégonfle. On a parlé de ça il y a quelques semaines, hein? Il y a des gens qui disent, mais oui, je suis juste un pneu dans la corde. Mais c'est correct, on a besoin de vous. Regardons ce que Jésus a dit à Apocalypse 3, 15. Je connais ta vie, tu n'es ni froid, ni bouillant, comme je voudrais que tu sois l'un ou l'autre, mais puisque tu es tiède, c'est-à-dire ni froid, ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Donc ça, c'est assez clair, n'est-ce pas? Ça ne m'étonne pas, et vous? Moi, je veux être utile pour Dieu. Et je vois que si je suis nonchalant, si j'ai de l'apathie, si je suis comme bon, qu'est-ce sera? Là, le Seigneur Jésus dit clairement qu'il va nous vomir de sa bouche. Donc, voyez-vous que c'est important d'être en feu pour Dieu? Regardons Matthieu 24, verset 12. Comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi, on parle de qu'est-ce qui va arriver dans les derniers temps, et que le mal fera des progrès constants, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Il ne faut pas que ça soit le cas dans l'Église. Il ne faut pas, mais savez-vous quoi? Si on se laisse aller, si on ne fait pas quelque chose pour ranimer le feu, notre amour va se refroidir. Et si notre amour est refroidi, nous ne serons plus tous ensemble. Pourquoi? Être ensemble, c'est quoi? Avec passion et à l'unisson. Donc, si on perd la passion, on perd l'unité. Donc, l'ennemi de l'unisson, là, on a vu l'ennemi de avec passion, mais l'ennemi de à l'unisson, c'est quoi? C'est la division. Dieu est un Dieu de multiplication. Savez-vous quoi? Pasteur Claude a parlé tantôt des groupes d'impact. J'aime ça. A2, F2. Hein? Pour la multiplication. Donc, on voit que Dieu est un Dieu de multiplication. Il veut que l'Église se multiplie. Moi, je suis convaincu d'une chose. Que si on pourrait voir maintenant une émission en direct du ciel et Dieu pourrait nous montrer sa vision pour l'Église chrétienne, la vie comblée, qu'on serait étonné de voir toutes les belles choses qu'il a planifiées pour nous. Si vous pourriez voir le film de Dieu sur votre vie personnelle, sur votre famille, et qu'est-ce que vous êtes supposé de faire, vous serez étonné de voir les belles choses que Dieu veut faire dans votre vie. Des grandes choses. Amen. Toutes les âmes qui vont être sauvées, les belles choses qui vont se faire, les miracles qui vont être déclenchés, Dieu veut faire des grandes choses. Mais il faut rester avec passion et à l'unisson. Et si le diable est capable de nous diviser, il va nous diviser. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'une fois qu'on est divisé, on devient fragile, on devient susceptible, on devient un cible pour la destruction, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un qui serait capable de déchirer cette Bible ce matin pour moi, juste? Lui, il est fort, hein? Penses-tu être capable de déchirer? Non, tu ne veux pas essayer? Non, on ne veut pas prendre la chance. Hein? Non. C'est une Bible quand même. Non, mais pourquoi est-ce qu'il ne serait pas capable de déchirer cela? Penses-tu que tu serais capable de déchirer ça? Non, fais pas. Non, franchement, tu n'oses pas déchirer une Bible, non. Je l'agace ce matin. Mais regarde, il y a même une page qui est déjà déchirée. Je sais pas à qui ça appartient, mais vous voyez, pourquoi se déchirer? Parce que cette page a été séparée d'avec les autres au moment donné, n'est-ce pas? Si les pages restent ensemble, c'est fort. On peut pas. Et savez-vous quoi? Si nous restons ensemble, le diable ne peut pas nous déchirer non plus. Mais dès qu'on commence à être séparés, là, c'est quelque chose, hein? On peut prendre quelqu'un, le boxeur le plus fort au monde, et demande-lui de faire un match juste avec ses petits doigts. Penses-tu qu'il va faire grande chose? Hein? Ça fait mal, hein?
Oui.
Ça marche pas. Pourquoi? Parce que le petit doigt doit être ensemble avec tous les autres, n'est-ce pas? Là, on a une force. Là, on peut faire un impact. Là, on peut faire quelque chose qui va compter pour Dieu. Donc, c'est pourquoi la division, c'est la pire ennemi à l'unisson. En Corinthiens 1:10 dit ceci, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de quoi? Division parmi vous. » Pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour l'apôtre Paul de dire à l'Église, il parle aux chrétiens, il devrait savoir déjà, n'est-ce pas? Mais il parle aux chrétiens, il dit qu'il n'y a pas de division parmi vous, parce que nous avons une tendance naturelle d'avoir la division, n'est-ce pas? Mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment, Quand mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. On ne devrait jamais avoir la division ou les disputes au milieu de nous. Vous êtes d'accord? Mais combien de vous, vous savez que ça arrive des fois si on ne fait pas attention? Donc, Corinthiens 3, verset 1 dit, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants. Hein. » La semaine passée, on a parlé de l'importance de ne pas rester enfant. Vous vous rappelez du bébé dans la coupe Stanley? Hein? Peut-être il a le potentiel de devenir un bon gardien de but comme son père, mais aussi longtemps qu'il reste bébé, il peut rien faire sur la glace. Même chose pour nous. Aussi longtemps que nous restons enfants, on ne peut pas faire grande chose pour Dieu. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc là, on voit que les deux ennemis qu'il faut absolument vaincre, c'est l'apathie et la division. Et si on est capable de vaincre l'apathie et rester en feu pour Dieu, si on est capable de vaincre la division et rester ensemble dans l'unité de l'esprit, on va être capable de faire beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Donc là, juste pour terminer aujourd'hui, je vais vous donner 7 conseils pratiques. Comment vaincre les ennemis de l'apathie et de la division. Première chose qui est bien importante, comprenez l'importance du plan de Dieu pour votre vie. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont « Que sera bon? » Ouais, Dieu veut que je fasse quoi? Ok. Si j'ai le temps, je vais checker mon emploi de temps. Je vais voir, je vais checker le solde de mon compte de banque, si j'ai assez là-dedans. C'est comme, vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui font leur vie chrétienne comme ça. Oh, c'est le temps de louange. Oh, c'est le temps pour l'offrande. Prochaine fois. Oh, c'est temps pour le message du pasteur. Oh, c'est le temps de manger. Wouh, on y va. On prend rendez-vous chez Tim. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Hein? Wouh, j'ai faim. J'ai un petit creux aujourd'hui. Hein? Wouh. Est-ce que j'ai fait ça? Je ne sais pas, mais... Est-ce que le message a passé? On sait que notre repas chez Tim, c'est bien important, n'est-ce pas? On sait que c'est bien important qu'on ne manque pas notre émission préférée. C'est bien important qu'on ne manque pas nos vacances ou les choses comme ça, mais est-ce qu'on sait jusqu'à quel point le plan de Dieu pour notre vie est important? Est-ce qu'on sait jusqu'à quel point que dans le fond, rien d'autre est vraiment si important que ça? Qu'est-ce qui peut comparer au plan de Dieu, à la volonté de Dieu pour ma vie? Rien! Et c'est pourquoi on a besoin avec une zèle, avec passion, avec ardeur, avec ferveur, avec un feu de poursuivre le plan de Dieu. Et pour faire cela, il faut comprendre l'importance du plan. Regardons ce verset, Éphésiens 5. Verset 15 de la parole vivante. Veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre quoi? Responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à plus loin. Combien de chrétiens ont vécu bon de jour en jour sans penser plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie? Est-ce qu'il y a des gens ici qui comprennent le vrai sens de la vie? Savez-vous pourquoi vous êtes ici ce matin? Comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément parce que nous vivons en un temps où domine le mal. Regardons verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents. Ne vivez pas en dilettante, mais à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire, puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on fait quoi que ce soit, on doit consulter le Seigneur. Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux accomplir aujourd'hui? Le cadran sonne lundi matin, c'est le temps d'aller au travail. Pose la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse aujourd'hui? Il faut que je comprenne que j'ai quelque chose à faire aujourd'hui. C'est pas juste aller puncher la carte. C'est plus que ça. C'est pas juste aller travailler, mettre au boulot dodo. C'est, je vais accomplir une mission aujourd'hui au travail. J'ai une vie à toucher. J'ai des choses à prier. J'ai besoin de gagner mon pain, oui, mais j'ai besoin aussi de gagner ma semence pour l'œuvre de Dieu, pour pouvoir acheter mon billet pour aller en Outre-mer, ou pour pouvoir m'inscrire à l'école biblique, ou pour pouvoir donner aux missionnaires. J'ai besoin, ma vie a une importance. Pas juste votre vie à l'église, mais votre vie entière est importante. Et Dieu en prend pour chaque partie de votre vie. Donc, posez-vous la question à tous les jours, Seigneur, aide-moi à comprendre l'importance. Je suis content que tous mes membres fonctionnent ce matin. Tous les organes dans mon corps fonctionnent. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est important? Vous êtes important aussi. Regarde quelqu'un et dit, je suis important. Mais regarde quelqu'un, la même personne et dit, tu es très important aussi. Donc, ça, c'est la première chose. Comment vaincre l'apathie? Comment vaincre la division? Numéro 2, faites tout ce que vous faites comme pour le Seigneur. Peu importe ce que vous faites. Vous chantez à l'église? Chantez pour le Seigneur. Vous donnez l'offrande à l'église? Donnez pour le Seigneur. Hein? Vous changez une couche dans la pouponnière? Change la couche pour la gloire de Dieu. Vous balayez le plancher de l'église, faites-le pour la gloire de Dieu. Vous allez au travail lundi matin, faites-le pour le Seigneur. Même si vous n'aimez pas votre patron, faites-le pour le Seigneur. Servez votre patron comme vous servez le Seigneur. Laissez-moi vous dire, ça va changer votre vie. Mais imaginez, c'est tout le monde. Il faut qu'on comprenne, premièrement, comme on a dit, numéro un, on a dit, il faut comprendre l'importance du plan de Dieu. Moi, j'ai commencé à saisir l'importance du plan de Dieu pour cette église de la vie comblée. Moi, j'ai la conviction dans mon cœur, que si nous ne faisons pas ce que Dieu nous a demandé à faire, qu'il y a des personnes qui vont passer l'éternité à l'enfer. Je sais qu'il faut que cette église réussisse parce que nous allons implanter d'autres églises ailleurs. Il faut que le centre de formation biblique vraiment réussisse parce que ça va former des centaines des ouvriers, peut-être des milliers d'ouvriers pour la francophonie. Il faut que ça réussisse. Amen. Il faut que nous ayons cette maison d'édition pour répandre la parole de Dieu dans la francophonie. Il faut, parce que sinon, il y a des personnes qui vont jamais connaître Jésus. Donc, c'est pourquoi je peux pas me permettre d'être, bon, que sera. Il faut courir avec passion. Donc, je comprends cela, le pourquoi et l'importance, mais numéro deux, comme on dit, il faut que je fasse tout ce que je fais pour le Seigneur et pas pour les hommes. Moi, je peux pas avoir une belle église, une grosse église remplie d'âmes juste pour pouvoir dire, regarde notre église, on est vraiment quelque chose, on le fait pour le Seigneur. On veut pas réussir une école biblique pour dire, oh, regarde, on a une belle école biblique. Non, c'est pour le Seigneur. Je peux pas juste réussir mon mariage, hein, pour les hommes, mais pour le Seigneur, pour sa gloire. Et vous, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Numéro 3, vaincre l'égoïsme et l'orgueil en pensant d'abord aux autres. On parle de comment vaincre l'apathie et comment vaincre la division. Savez-vous que l'égoïsme et l'orgueil sont encore des choses, on pourrait dire, qu'on voit à presque chaque fois qu'il y a une division, si on est capable d'examiner de près qu'est-ce qui se passe quand les personnes sont divisées, on va presque toujours découvrir que la racine du problème, c'est l'orgueil ou l'égoïsme, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi il faut le vaincre. Et comment est-ce qu'on va le faire? Philippiens 2:2 nous donne le remède. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, souligne le mot humilité, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Est-ce qu'on peut dire, ça c'est une belle recette pour l'unité, n'est-ce pas? Imaginez une église où tout le monde, tout le temps, pense à l'autre personne avant de penser à soi-même. Imaginez un mariage où monsieur va toujours penser à son épouse avant de penser à lui-même. Et madame va toujours penser au monsieur avant de penser à elle-même. Ça, c'est la recette pour le succès, n'est-ce pas? Oui, merci René, c'est vrai. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est d'accord? Est-ce qu'on peut dire amen à l'unisson et avec passion? Amen! Alléluia. Puis numéro 4, bannir la convoitise en faisant confiance à Dieu pour vos besoins. Vous savez, une autre chose qui cause souvent la division dans un couple, dans une famille, dans une église, c'est la convoitise. Convoiter, ça veut dire quoi? C'est-à-dire de désirer ardemment et être prêt à faire n'importe quoi pour recevoir quelque chose qui ne nous appartient pas. Savez-vous, il y a des personnes qui vont convoiter l'argent. Il y a d'autres personnes qui vont convoiter une femme. Il y a d'autres personnes qui vont convoiter peut-être juste le fait d'être l'orgueil de la vie, le fait d'être reconnu ou glorifié devant les hommes. Convoiter sème toujours la division dans une relation ou dans une congrégation. La convoitise. Mais moi, je sais une chose. Il y a un verset dans la parole. Jacques 4 dit, d'où viennent les luttes? C'est une bonne parole pour ceux qui sont mariés, ceux qui sont célibataires, n'importe qui, tout le monde peut apprendre ce verset. Jacques 4, hein, d'où viennent les luttes ou d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous faites quoi? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire à vos passions. L'autre jour, je cherche quelque chose, hein? Juste l'autre jour, j'ai eu une conversation avec deux de mes enfants, mes jeunes, juste pour que vous sachiez, hein? Au cas où qu'il y a un moins jeune dans la salle. Mais il y avait une petite dispute, une petite querelle. Je sais que ça c'est jamais arrivé chez vous, hein? Hein? Vos enfants ont toujours été sages comme les images, n'est-ce pas? Mes enfants sont des bons enfants aussi, mais regarde bien, des fois, une fois par an, quelque chose comme ça, ils vont avoir une petite querelle. Non, j'aimerais ça une fois par année. Mais on refait quoi? Il y avait une histoire d'un jouet. OK? Un petit jouet en plastique. On va dire que ça représente le petit jouet en plastique. Et puis, il y avait un enfant qui avait le jouet entre ses mains. L'autre enfant a dit, hey, moi, je veux faire ça, je veux jouer avec ça. Donc, il n'a pas vraiment demandé, est-ce que je peux? Il a dit, oh, moi aussi, je veux jouer. Donc, il l'a pris et bon, vous pouvez deviner hein, qu'il y avait une petite, hey, non, c'est à moi, da-da-da-da-da-da. Je dis, wow, attendez une minute, là. Parce que là, la querelle, la lutte a commencé. Vous dites, oh, c'est stupide, un petit jouet. Ouais, mais regardez, vous avez des jouets aussi, ce sont juste plus chers que les jouets des enfants. C'est mon char, c'est mon auto, c'est... Regarde, Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le jouet et je dis, wow, 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 attends une minute là. Là, vous commencez à avoir la friction entre vous deux. Pourquoi? Pour un petit morceau de plastique. Puis, parce que c'est vrai qu'un enfant avait tort de prendre le jouet sans demander. Mais l'autre avait tort de réagir, hein, trop. Hey, c'est à moi, donc. Je dis, écoute, j'ai pris le jouet, je l'ai mis en haut dans l'air, je dis, regardons. C'est juste un petit morceau de plastique. OK? En réalité, tout ce que nous avons vient de qui? Tout ce que nous avons vient de Dieu, n'est-ce pas? Et je demandais à celui qui a pris le jouet, à qui est-ce que Dieu a confié ce jouet? Hein, c'est qui est, le, si vous voulez, le responsable de jouer? C'est à qui est-ce qu'il a confié? Donc, bon, c'est à lui. Ça, c'est correct. C'est à lui. Hein? Mais c'est pas vraiment à lui, c'est juste à lui de gérer l'objet parce que tout appartient à Dieu, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, je dis, écoute, si Dieu est capable de lui confier un jouet, le Seigneur est capable de te confier des choses aussi. Pas besoin de convoiter qu'est-ce qui appartient à quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin de regarder notre frère, notre frère, oh, c'est pas Dieu qui a ça, moi aussi, je le veux. On devrait toujours regarder en haut, on dit, Seigneur, wow, je suis content pour mon frère, il a un beau jouet, mais Seigneur, j'aimerais aussi peut-être un jour avoir ça. Mais j'ai dit à l'autre, je dis, écoute, le Seigneur t'a confié ça, mais c'est pas à toi. Ce serait peut-être gentil de ta part de dire, bon, mais mon frère, il a l'air de vouloir jouer avec ça. Pourquoi pas, à l'occasion de Dieu, aimerais-tu avoir un tour aussi? Amen? On peut éviter pas mal de problèmes. On dit, mais si on parle de jouer, ça peut être un biscuit, ça peut être un jouet, mais ça peut être n'importe quoi. Laisse-moi vous dire, si seulement les couples mariés pourraient apprendre cette leçon. Si tous les membres de l'Église pourraient apprendre cette leçon. Oh, mais c'est mon ministère. Vous n'avez pas de ministère. Je n'ai pas de ministère. Tous les ministères appartiennent à Dieu. Amen. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Et je crois vraiment que si on peut avoir la révélation de jusqu'à quel point Dieu nous aime et qu'il veut nous bénir, que ça va régler une fois pour toutes le problème de la convoitise et de la jalousie. Parce que ça détruit une Église. Donc, prochaine fois que tu vois quelqu'un qui est béni, dis pas, oh, je suis pas juste, dis merci Seigneur que tu es bon, tu es généreux et que tu donnes à tout le monde sans reproche. Puis, numéro 5, essayez de comprendre et honorer les différences. C'est quoi qui cause la division? C'est pas juste l'orgueil, c'est pas juste l'égoïsme, c'est pas juste la convoitise. Souvent, c'est une manque de compréhension aussi. Si je ne comprends pas pourquoi mon frère fait une telle chose, ça va peut-être me déranger. Si je ne connais pas son cœur, si je ne comprends pas son comportement ou son tempérament, ça va déranger. Et si je suis dérangé, ça va diviser. Amen? Et là, on a un bon exemple dans la parole. Regardons ceci en 1 Pierre chapitre 3. Et on voit l'exemple dans le mariage, mais ça s'applique dans l'église, au travail, n'importe où. Quant à vous, Marie, essayez de comprendre vos femmes. On a beaucoup ri de ça dans notre groupe d'impact pour les jeunes couples, hein, n'est-ce pas? Hein, essayez de comprendre vos femmes. Je sais que c'est pas évident, c'est peut-être pas même possible, mais essayez de comprendre vos femmes. Pourquoi? Quant à vous, Marie, essayez de comprendre vos femmes, ayez beaucoup d'égard pour elles dans votre vie commune. Souvenez-vous, qu'elles ont une nature plus fragile et plus délicate, traitez-les avec respect et honneur, non seulement parce qu'elles sont plus faibles, mais parce qu'elles héritent avec vous la vie éternelle. Que Dieu vous accorde dans sa grâce, et puis sinon, vous mettez vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. On parle d'être tous ensemble, c'est là où le Seigneur envoie sa bénédiction. Laisse-moi vous dire que si nous ne comprenons pas ceux qui sont différents. Et si nous ne donnons pas l'honneur à toutes ces autres personnes, que nous allons faire un blocage aux bénédictions de Dieu. Et souvent, c'est ça le problème. Les introvertis ont de la difficulté avec les extrovertis. C'est vrai, hein? Vous dites, peux-tu juste vous calmer un peu, s'il vous plaît? S'il vous plaît, calmez-vous. calmez-vous. Mais franchement, il veut juste attirer l'attention à lui-même. Mais savez-vous quoi? Les extravertis regardent les introvertis. Êtes-vous là? Êtes-vous déjà rentré? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On a besoin de comprendre. On a besoin des extravertis. On a besoin des introvertis. Je donne toujours l'exemple de concessionnaire auto, n'est-ce pas? Si quelqu'un, imaginez, chez Ford ou Toyota, ils ont souvent des vendeurs sont quoi? D'habitude, les vendeurs sont les extravertis, n'est-ce pas? Hey, salut monsieur! Da-da-da-da! Et puis, ils sont là pour vendre. Mais ils font pas trop attention aux détails souvent. Hein, quelqu'un lui arrive avec un chèque pour un paiement ou quelque chose, il va aller pitcher ça dans un, sur un bureau ou dans un tiroir quelque part. Bon, mais je vais aller vendre encore plus. Hein? Mais tu arrives avec le chèque et tu donnes ça à un introverti qui travaille en arrière du bureau, qui fait du secrétariat ou quelque chose. Bon, elle va prendre cela. Elle va être sûre et certaine que la date est bien est inscrite, qu'il n'y a pas d'erreur sur le chèque. Puis, elle va aller chercher la clé pour débarrer le classeur, pour classer le chèque à la bonne place, fermer le tiroir, battre la porte, remplir le rapport et tout est beau, tout est correct. C'est merveilleux. Combien de vous savez que ça serait un désastre de mettre les vendeurs dans le bureau? Mais savez-vous que ça serait un désastre de mettre les secrétaires sur le plancher pour vendre aussi? Et dans l'Église, c'est la même affaire. On a besoin de tous les membres. Et dans un mariage, c'est la même chose. Monsieur, la chose qui vous dérange souvent par rapport à votre épouse, c'est peut-être la chose le plus importante dans votre vie. Vous avez juste besoin de comprendre, ah, c'est pour ça que Dieu lui a créé comme ça. Il y a des gens qui sont forts. Au bout de peu de foi, hein? Mesdames, les choses qui, ça t'agace. Je dis pas, je fais pas des excuses pour les bêtises et la chair, mais des fois, il y a des différences. C'est pas méchant, c'est pas mauvais, c'est juste différent. Et on a besoin de comprendre et d'honorer. Numéro 6, soyez prompts à pardonner et à couvrir les péchés des autres. Soyez prompts à pardonner. Frappez la personne à côté de vous et puis dites, je m'excuse. Non. Non, on ne fait pas ça. Hein? Je ne suis pas en train de vous donner... Là, il faut que je fasse attention, hein. Ben, vous allez me pardonner, je m'excuse. Merci. 2 Corinthiens 2, 10. On voit l'importance du pardon. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à qui? À Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. On voit que si nous ne pardonnons pas, que nous donnons l'avantage à Satan, et ça ne tente pas. Au moins, il y a trois personnes qui ne veulent pas que Satan ait l'avantage sur eux. Guita, merci. Mais vous savez, c'est subtil des fois. Parce que des fois, les personnes font des vraies bêtises. Juste une chose, par exemple. Pardonner n'égale pas faire confiance. Le pardon et la confiance ne sont pas la même chose. Donc, justement, hein, si quelqu'un est en train de te battre, tu dois, bibliquement parlant, vous êtes obligé de pardonner. Mais vous n'êtes pas obligé de rester dans sa présence pour subir encore et encore et encore les abus. Jusqu'au moment que la personne a besoin de se repentir et de prouver qu'il est digne de votre confiance. Et ça prend du temps. Amen? Donc, quand je parle du pardon, le pardon, ça doit être inconditionnel. Je pardonne parce que Dieu m'a pardonné en Christ. Donc, je vous donne le pardon. Je n'ai pas de rancune dans mon cœur. Je n'ai pas de l'amertume. Je ne veux pas que quelque chose de mal vous arrive. Je ne veux pas votre destruction. Je prie pas que vous soyez frappés par un éclair ou que vous tombiez dans une pépite. Je prie pas que votre auto saute, le moteur de ton char saute. Je prie pas les affaires de même. Mais, j'ai pas d'amertume, je suis pas fâché, mais en même temps, jusqu'au moment que vous avez prouvé que vous êtes digne de confiance, je peux plus vous faire confiance. Vous comprenez? OK? Et c'est là où vous aurez besoin de beaucoup de la sagesse de Dieu. Mais juste, posez-vous la question. Combien de fois vous êtes content que Dieu vous a pardonné au moins une fois dans la vie? Est-ce que vous êtes content que Dieu ait été miséricorde avec vous? Miséricordieux avec vous? Moi, je suis vraiment reconnaissant. Donc, je pense que si Dieu a pardonné la dette que je lui devais, je suis dans l'obligation de pardonner la dette des autres aussi. Donc, je vais faire pour les autres ce que je veux que les autres fassent pour moi et ce que je suis content que Dieu a fait pour moi. Amen. Donc, 1 Pierre 1, 22. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Pourquoi? Car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est vrai, n'est-ce pas? Des fois, on dit que l'amour est aveugle. On voit deux, un jeune couple, c'est le coup de foudre, et laisse-moi vous dire que cette jeune fille peut rien faire, elle peut rien faire qui est mal, qui est mauvais. Elle ne fait que des bonnes choses. Monsieur ne fait que des belles choses. Il est merveilleux, il est parfait. C'est son héros, n'est-ce pas? Jusqu'au moment qu'il se marie, et après 5, 6 jours, ou mois, ou un, tout d'un coup, les choses commencent à changer. Est-ce que la personne a changé? Non. Mais les émotions ont changé, les sentiments ont changé. Mais regardons ici, l'amour couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire, et ces paroles s'adressent aux chrétiens. Il y a une multitude de choses que nous faisons qui ne sont pas correctes. Et si nous allons rester ensemble, avec passion et à l'unisson, il faut avoir un amour ardent les uns pour les autres et couvrir ces péchés au lieu d'aller les publier. Vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas? Première chose que vous devrez faire, c'est quoi? Prendre le téléphone et commencer une chaîne de placotage. Non, c'est pas ça qu'on doit faire. Tu sais capable de dire là-bas? Ah ouais, vous voir. Ouh. Ça se peut pas. La division. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? L'amour couvre une multitude des péchés. Moi, je vous demande, je ne parle pas des grosses affaires, mais est-ce que vous pouvez m'accorder la grâce, la miséricorde? Si je fais des choses qui ne vous plaisent pas, viens me voir, parlez avec moi. Moi, je vais faire la même chose pour vous. Vous faites des choses qui ne me plaisent pas. Si c'est nécessaire, on va dire la vérité avec amour, mais on va couvrir une multitude de péchés avec l'amour, et comme ça, on va rester ensemble. Alléluia! Gloire à Dieu. Puis finalement, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Et ça, c'est vraiment la clé ce matin. On ne peut pas faire croire que nous serons capables de rester à l'unisson et d'avoir une passion pour rester tous ensemble, sans avoir l'aide du Saint-Esprit. Moi, je sais que en moi-même, je ne suis pas capable de démontrer cet amour divin 24 heures sur 24 heures. Des fois, mon corps ne veut pas pardonner. Des fois, mes émotions n'ont pas le goût de couvrir un péché. Amen? Je vais le dire. Savez-vous quoi? Que même des pasteurs, des fois, pourraient avoir le goût de prendre le téléphone. Nous sommes les êtres humains, nous avons un appel sur notre vie, nous avons une onction pour prêcher, pour enseigner. Et merci Seigneur que pour être pasteur, il faut avoir une certaine maturité. Il faut être capable de dompter la chair et maîtriser la chair et de dire non. Au lieu de faire ça, je vais bénir ceux qui m'ont maudit. Je vais faire du bien à ceux qui m'ont fait de mal. Je vais prier pour mes ennemis. Je vais rester dans l'esprit et pas me laisser dominer par mes sentiments. Mais ça prend la force et la puissance du Saint-Esprit. Jude 1, 19, regardons. Eh bien, il s'agit de ces gens-là. Ce sont eux qui sèment la discorde et causent des divisions dans les églises. Savez-vous qu'il y en a comme ça? Ce sont des êtres gouvernés uniquement par leur quoi? Sentiments. Quelqu'un qui cause des divisions dans une église, c'est quelqu'un qui est dominé uniquement par ses sentiments et qui n'est pas dominé par l'esprit. Parce que quelqu'un qui est dominé par l'esprit, même s'il voit des problèmes, même s'il y a des choses qui vont pas, il va régler les choses avec amour. Même s'il y a des frictions, des conflits, il va régler les choses avec l'aide de l'Esprit Saint. Quelqu'un qui cause des divisions, c'est quelqu'un qui est gouverné uniquement par leurs sentiments. Et qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte, priez dans la communion du Saint-Esprit et avec sa puissance. Et c'est pas dans vos notes, mais le prochain verset dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Amen. Donc, si je vais vaincre l'ennemi de l'apathie et la division, il faut que je sois rempli du Saint-Esprit. Regardons juste, on va terminer ici avec ceci. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduit à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par la chant de psaumes, hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes à tout moment et pour toutes choses. Vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérez le Christ, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont de la révérence pour Jésus-Christ? Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Bref, vous resterez ensemble, avec passion, à l'unisson. Donc, c'est cette chose qu'on a besoin de méditer. Moi, j'ai besoin d'être rempli de l'Esprit pour pouvoir maintenir l'unité de l'Esprit. Vous avez besoin d'être rempli de l'Esprit. Nous avons besoin d'être rempli de l'Esprit. Est-ce qu'on va se relever debout ce matin? Alléluia. Et nous allons prier. Merci, Père Céleste. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à vaincre l'apathie dans leur vie? Vaincre la division? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en feu? Alléluia. Merci, Père. Au nom de Jésus. Ce matin, nous allons faire un appel pour deux ou trois choses. Donc, ne bougez pas trop. On va juste prendre quelques minutes ce matin pour penser à cela et donner l'occasion au Saint-Esprit d'agir. Ce matin, je vais demander s'il y a des gens qui ont besoin d'être remplis de l'Esprit. Comme le verset vient de dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Laisse-moi vous dire que être rempli de l'Esprit, c'est pas une chose qu'on fait une fois et puis c'est tout pour le restant de la vie. C'est une chose qu'on fait continuellement. Continuellement, on peut être rempli de l'Esprit. On peut prier dans l'Esprit. Régulièrement. Et plus je prie dans l'Esprit, plus mon cœur est bâti et fortifié, moins mon corps et mes sentiments, moins la chair va prendre l'emprise sur moi. On a besoin de ne pas être les enfants, de grandir, de devenir adultes. Nous avons besoin de ne plus être une église charnelle, mais une église spirituelle. Donc ce matin, je vais juste vous demander à sonder votre cœur. Posez-vous la question ce matin. Est-ce que j'ai laissé mon amour refroidir? Est-ce que j'ai laissé ma passion pour Christ diminuer? Est-ce que j'ai donné la place à la division dans ma vie personnelle, dans mon couple, dans mon église? Si oui, on va se repentir ce matin. On va dire, Seigneur, pardonne-moi. Et puis par la suite, s'il y a des gens qui ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. La Bible dit qu'en Actes chapitre 2, qu'ils étaient tous ensemble, quand le Saint-Esprit a été répandu du ciel et le lieu où ils étaient assemblés était rempli. On voit que les gens qui étaient là, assemblés ensemble, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Ils s'exprimaient dans une langue inconnue pour louer Dieu, pour glorifier Dieu, pour prophétiser. Et ça, c'est une expérience que nous pouvons avoir même aujourd'hui. On peut être rempli de l'Esprit Saint. Et dans une minute, je vais vous inviter à venir recevoir cela, si ça vous intéresse. Mais avant ça, regardez-moi. Il y a peut-être quelqu'un ici qui dit, mais pour dire la vérité, je ne suis même pas sûr que je suis enfant de Dieu ce matin. Et moi, j'ai fait un engagement devant Dieu que je ne vais pas laisser passer un dimanche sans donner l'occasion à chacun qui vient ici à la vie comblée de donner leur cœur à Jésus. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer votre Créateur? Si en quittant le lieu ce matin, votre cœur arrête de battre, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous savez sans aucune doute que vous allez passer l'éternité au ciel avec Jésus? Sinon, aujourd'hui, vous pouvez donner votre cœur à Jésus. Et Jésus a dit une chose, il a dit ceci, « Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. » Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père qui est au ciel. Donc, vous dites, mais je crois en Jésus depuis toute ma vie, depuis mon enfance, mais même le diable croit en Jésus, c'est pas assez. Il faut donner ta vie à Jésus. Il faut accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, ton Maître. La Bible dit qu'il faut confesser avec ta bouche qu'il est son Seigneur. Il faut croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Donc ce matin, je veux juste savoir, est-ce que quelqu'un, ce matin, qui aimerait donner sa vie à Jésus, ou qui veut être rempli du Saint-Esprit? Je vais juste compter à trois, et si vous voulez, quand je tape ma main, je vous lève la main haut dans l'air, oui, je veux donner ma vie à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, ce matin, ou qui veut être rempli du Saint-Esprit? Un, deux, trois, levez la main dans l'air. Oui, viens ici en avant, on va prier pour toi. Quelqu'un d'autre? Merci Seigneur! Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour lui ce matin? Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui dit, mais moi, j'ai déjà donné ma vie à Jésus, mais j'ai perdu le feu et j'ai vraiment besoin, je me suis éloigné de Dieu, j'ai besoin de me rapprocher de lui. Juste venez. Est-ce que quelqu'un, vous levez la main, venez. Est-ce que quelqu'un? Mais viens. Venez. C'est correct. C'est correct. C'est correct. On va prier avec ces trois personnes et puis, on a Pasteur Claude, je pense, qui s'en vient, qui va pouvoir prier un peu plus avec vous pour le baptême du Saint-Esprit, si c'est ça que vous avez besoin. Donc, mais on va prier avec eux ce matin. N'est-ce pas merveilleux de voir ces personnes répondre à l'appel? On va prier ceci. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je confesse avec ma bouche que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Et aujourd'hui, je veux ranimer le feu. Vivre avec passion et à l'unisson avec le corps de Christ. Merci Seigneur, que ma vie compte pour toi. Et Seigneur, il n'y a rien de plus important que de vivre pour toi. Ma vie t'appartient. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.